Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Arauz, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Le président Alberto Fernández a réitéré la revendication de l'Argentine sur les îles Malouines lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Nous regrettons que le Royaume-Uni continue de refuser de reprendre les négociations, a déclaré le chef de l'État. Il a réaffirmé l'engagement de l'Argentine en faveur d'une solution pacifique à cette situation coloniale anachronique. Fernández a également insisté sur la nécessité de réformer l'architecture financière mondiale. À ce sujet, il a déploré que le FMI augmente ses taux d'intérêt chaque fois que la Réserve fédérale américaine augmente les siens pour contenir l'inflation dans son pays. Dans son discours, le président argentin a également désavoué l'invasion russe de l'Ukraine et condamné le blocus américain de Cuba et les sanctions économiques internationales imposées au Venezuela. Par ailleurs, il a exhorté la communauté internationale à faire pression sur le Guatemala pour qu'il respecte le résultat des élections qui a consacré le gauchiste Bernardo Arevalo comme président. L'UNESCO a inscrit l'EHMA au patrimoine mondial de l'humanité, la caserne militaire de Buenos Aires où fonctionnait le plus grand centre de détention clandestin pendant la dictature de 1976 à 1983. L'EHMA a ainsi été ajouté à la liste des sites de valeur universelle exceptionnelle. Pour l'UNESCO, l'ancienne école supérieure de mécanique de l'armée argentine est représentative de la répression illégale en Amérique latine dans les années 1970 et 1980. On estime que quelques 5000 détenus sont passés par l'EHMA, dont la plupart sont toujours portés disparus aujourd'hui. Actuellement, elle abrite un musée de la mémoire et le siège de plusieurs organisations de défense et de promotion des droits de l'homme. Nouvelle route de la soie, l'Amérique, deuxième destinataire des investissements chinois. Il y a 10 ans, le président Xi Jinping annonçait le lancement des nouvelles routes de la soie, qualifiées de projet du siècle. Depuis, des centaines de milliards de dollars ont été investis sur tous les continents, d'abord en Asie, mais l'Amérique latine est le deuxième plus important destinataire de ces investissements, selon RFI.
C'était donc il y a 10 ans, le 7 septembre 2013. Le président Xi Jinping lançait l'initiative dite de la ceinture et de la route, plus souvent appelée les nouvelles routes de la soie. Depuis, des centaines de milliards de dollars ont été investis sur tous les continents dans des infrastructures, d'abord en Asie. Mais l'Amérique latine est le deuxième plus important destinataire de ces investissements. En ce moment, au Pérou, la Chine construit avec sa compagnie Cocosco Shipping un port en eau profonde. Il doit permettre de réduire de 10 jours les temps de trajet des conteneurs en provenance de la région. Toute cette semaine, RFI a donc choisi de revenir sur ce projet mondial devenu tentaculaire. Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine, des questions stratégiques et de relations internationales associées à l'INELCO, répond aux questions de Christophe Paget sur ces nouvelles routes de la soie en Amérique latine.
Emmanuel Véron, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que la Chine vient chercher au Pérou et ensuite plus largement en Amérique latine?
Ils viennent d'abord et avant tout chercher du soutien et de l'appui politique, diplomatique, mais aussi des ressources naturelles agricoles. C'est fondamentalement là le pilier essentiel, je crois, de la diplomatie chinoise en direction du Pérou, en direction de la Colombie, du Brésil bien évidemment, ou de l'Argentine, nous y reviendrons. Et puis, troisième et dernier sujet, c'est aussi resserrer l'étau diplomatique autour de Taïwan en essayant de se rapprocher le plus possible avec différents États qui jusqu'alors reconnaissaient Taïwan. Et quand on regarde la cartographie de ces États-là, ils ne font que s'égrener, se diminuer, puisqu'on a quelques États en Amérique centrale, aux Caraïbes, et puis un seul en Amérique latine qui correspond au Paraguay. L'ensemble des autres États reconnaît Pékin comme seule Chine.
Cette volonté de la Chine d'établir des liens avec l'Amérique latine ne date pas des nouvelles routes de la soie. Elle a commencé il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'était aussi, de la part de certains pays d'Amérique latine, une volonté d'être moins proche des États-Unis, de l'influence américaine?
Il y a indéniablement, de la part de la plupart des pays latino-américains, une volonté de diversifier les partenariats, de sortir d'une logique d'arrière-cour américaine. Et d'ailleurs, on voit la percée chinoise des 20 dernières années qui est concomitante de l'arrivée au pouvoir des différents mouvements de gauche, que ce soit le Brésil, les pays andins, l'Argentine ou le Chili. Et bien évidemment, depuis 20 ans, il y a eu un flux et reflux de ces gouvernements à la fois gauche et de droite. Aujourd'hui, on a de nouveau un agenda qui est plutôt à gauche et on sent que la Chine essaye au maximum, même si elle partage des accointances avec l'ensemble du spectre politique, de tirer profit de ce paysage politique plutôt à gauche.
Pour ces nouvelles routes de la soie, on le voit avec la construction de ce port en eau profonde au Pérou, ça va au-delà du simple accord pour l'exportation d'énergie et de matières premières. Comment procède la Chine pour s'établir dans ces pays ?
Il y a cette première phase de rapprochement, d'intensification des relations, et puis rapidement la signature d'accords de libre-échange avec l'ensemble des pays, je pense à celui du Brésil au milieu des années 2000, idem avec la Colombie, le Pérou, avec l'Argentine, le Chili, qui donc viennent asseoir l'influence politique, l'influence diplomatique chinoise, qui elle cherche d'abord et avant tout à sanctuariser des ressources naturelles, des ressources minières, des ressources agricoles, et puis par là même déployer tout le volet infrastructurel du rail, de la route et bien évidemment des infrastructures portuaires. Et puis il y a, je le disais, sur les ressources naturelles, l'importance des minerais, du gaz et du pétrole, ce qui conduit certains collègues enseignants-chercheurs latino-américains à parler de reprimarisation des économies latino-américaines. À mesure de l'accroissement des relations économiques, prenons l'exemple du Brésil, donc sino-brésilienne, on a davantage de relations qui sont polarisées par l'extraction, par les ressources agricoles. Et en échange, on a une perte substantielle des capacités industrielles brésiliennes face à la très forte concurrence chinoise, et notamment de produits chinois dans la balance commerciale sino-brésilienne, viennent inonder le marché brésilien.
Et puis, toujours dans le cadre de ces nouvelles routes, il y a ces prêts contractés auprès de la Chine. Elle le fait aussi en Asie ou en Europe centrale. Des prêts sous condition, on vous prête de l'argent, mais vous devez recourir à notre technologie si vous voulez faire telle ou telle chose.
Alors, le cas de l'Argentine est particulièrement intéressant puisque l'Argentine a adhéré pleinement en signant ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding en février 2022. Dans le cadre des routes de la soie. Et précisément, quand un pays signe ce type d'accord, eh bien, c'est open bar, si je puis dire, pour la pénétration chinoise en matière de standards, en matière de déploiement diplomatique, commercial, etc., voire stratégico-militaire. Et il ne vous aura pas échappé que l'Argentine accueille une base avec un relais pour le développement spatial de la Chine, notamment dans la base de Neuquén, au cœur de l'Argentine. Et cette base-là, qui a des visées sur le programme spatial, en fait, fait aussi jonction dans la vision chinoise d'observation et de visée stratégique sur le pôle sud. Donc on voit bien ici l'enjeu qui est purement infrastructurel des routes de la soie, associé à des enjeux stratégiques et diplomatiques dans lesquels les partenariats déséquilibrés avec des pays affaiblis, et c'est bien le cas de l'Argentine, ne pèsent pas suffisamment face à la Chine.
Et comment les États-Unis voient ça ? Parce que l'Amérique latine, pendant des années, c'était un peu leur arrière-cour.
C'est la grande question. On s'interroge sur effectivement l'agenda stratégique américain concernant son arrière-cour. Certes, les États-Unis continuent d'entretenir des liens particuliers, je pense ici à la Colombie, ou prochainement vont réinaugurer un nouveau consulat qui sera beaucoup plus grand que l'actuel à Rio de Janeiro, au Brésil. Donc on voit bien que les Américains sont bien là, regardent, observent, suivent le sujet. Et fondamentalement, en matière de politique étrangère, c'est relativement discret, ils en parlent assez peu. Ça correspond fondamentalement à plus largement la politique américaine depuis Obama, où on ne peut plus être partout, tout le temps, y compris dans son arrière-cour. Il y a quand même avec l'administration Trump une sorte de réveil, en tout cas qui est un tournant. On a parlé davantage de la fragilisation d'un certain nombre d'économies, de pays et de sociétés, notamment en Amérique latine, avec cette percée chinoise. Et il ne sera pas surprenant dans les prochains mandats d'avoir un retour plus substantiel d'une politique américaine sur le continent latino-américain.
La Chine passe des accords un peu partout dans le monde pour ces nouvelles routes de la soie. On parle surtout de l'Asie, on parle de l'Europe centrale. Est-ce qu'il y a des spécificités propres à l'Amérique latine ?
Je crois que la spécificité qui est propre à l'Amérique latine, c'est la nature même des États latino-américains. Un exemple très précis, on évoquait l'Argentine qui a adhéré par la signature d'un Memorandum of Understanding aux routes de la soie. C'est l'exemple contraire du Brésil, alors même que le retour au pouvoir de Lula, il y a un an presque maintenant, pouvait laisser penser que le Brésil allait les deux pieds dans la relation avec la Chine. En fait, c'est beaucoup plus nuancé que cela, puisque la plupart maintenant de l'intelligentsia brésilienne est sensibilisée par rapport à un risque accru de fragilisation, de mettre tous ses œufs dans le même panier avec la Chine, aussi bien dans le milieu de l'extraction que dans les grands consortiums agro-industriels ou d'autres secteurs industriels brésiliens. Donc il y a une forme, si vous voulez, à travers les États et les sociétés latino-américaines, de plus de résistance, ou en tout cas de davantage manifester, non pas nécessairement une opposition musclée, mais en tout cas le fait de dire non et de savoir dire non.
Quelles sont les conséquences de cette proximité de l'économie des pays d'Amérique latine directement sur la population? Et d'ailleurs, comment est-ce que les habitants le vivent?
Quand on regarde les 10-15 dernières années, on a au sein des sociétés civiles latino-américaines, qu'elles soient colombiennes, qu'elles soient chiliennes, argentines, brésiliennes ou autres, davantage de sensibilisation aux questions géopolitiques, dont les questions chinoises. Les gens qui maintenant apprennent le chinois. La Chine a massivement investi sur la diffusion du chinois à travers différents programmes, que ce soit en accueillant des étudiants sur le territoire chinois ou en construisant différents centres et instituts, Confucius ou autres. Pour autant, la quasi-totalité des sociétés latino-américaines reste très tournée sur la partie hémisphère nord, Amérique du Nord d'un côté et puis l'Europe occidentale de l'autre. Malgré les grandes questions de sud global, de relations sud-sud, etc., la plupart de ces sociétés-là sont très fortement polarisées, que ce soit en matière culturelle, que ce soit en matière de formation, que ce soit en matière business ou en tout cas de réalisation personnelle et dans la vie professionnelle, davantage tournée vers le nord, même si on voit une diversification des intérêts en direction des autres sociétés de ce fameux site global.
On vient de l'entendre, les nouvelles routes de la soie sont donc un projet très ambitieux. Il doit accompagner la volonté chinoise de devenir la première puissance mondiale. Actuellement, c'est une position que l'on a plutôt tendance à accorder aux États-Unis. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial permanent à Washington. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour Mayol.
Comment ces investissements chinois sont appréhendés par la Maison-Blanche ?
Eh bien, ces nouvelles routes de la soie touchent à deux sujets qui, pour l'administration Biden, sont très importants. La concurrence avec la Chine, qui est souvent définie ici comme un rival systémique, un compétiteur très sérieux pour ce fameux statut de première puissance mondiale, mais aussi le sujet des infrastructures. Joe Biden est très fier du plan bipartisan pour les infrastructures qu'il a pu faire adopter par le Congrès. Il se montre souvent alarmiste en rappelant que les infrastructures américaines étaient autrefois considérées comme les meilleures au monde et qu'elles ne sont plus que 13e selon le Forum économique mondial et que d'autres pays, dont la Chine, investissent massivement pour passer devant.
Et face à ce constat, quelle est la réaction de Washington ?
Alors Joe Biden a proposé au sommet du G7 en Cornouailles en 2021 de faire une sorte de copier-coller de son plan pour les infrastructures, son plan Build Back Better, reconstruire en mieux. Cela s'appelle Build Back Better World. Il s'agit de proposer des financements pour des projets d'infrastructures à travers le monde. Des équipes ont été chargées d'identifier une dizaine de projets à haut potentiel un peu partout dans le monde, en Amérique latine, on l'a entendu, ou en Afrique, par exemple.
Alors, en Amérique latine et en Afrique. Et comment est-ce que ça se passe ailleurs, Guillaume ?
Donc vous l'aurez compris, les États-Unis voient d'un mauvais œil l'influence chinoise. Ils veulent donc convaincre leurs principaux partenaires de ne pas y adhérer. La chef du gouvernement italien, l'Italie fait partie du G7, je le rappelle, Giorgia Meloni a déjà dit que la décision de son pays d'adhérer au projet chinois avait été improvisée. Elle n'est pas très encline à re-signer en fin d'année. Elle affirme aussi que Joe Biden ne lui a jamais demandé de quitter l'initiative chinoise, y compris, paraît-il, lorsqu'elle a été reçue à la Maison-Blanche au mois de juillet. Donc officiellement, tout cela reste donc largement non dit.
Aujourd'hui, au Chili, on voit la polarisation de la société et les ambiguïtés de cette transition démocratique. Nous sommes face à une mémoire en bataille, fracturée, estime l'historien Franck Godichaud de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, à 50 ans du coup d'État contre Salvador Allende, en dialogue avec Radio France Internationale.
Le bruit des bombardements avait marqué les esprits ce 11 septembre 1973. L'image aussi du président d'alors, l'allure un peu hésitante, mais la main ferme sur un fusil automatique dans la cour du palais présidentiel. Juste avant, Salvador Allende avait prononcé son dernier discours.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
L'histoire nous appartient et ce sont les peuples qui l'écrivent. Quelques heures après avoir prononcé ces mots, Salvador Allende se suicide et à sa place s'installent des généraux avec à leur tête Augusto Pinochet. On va revenir sur ces événements et sur leurs conséquences avec notre invité Franck Godichaud. Bonjour. Vous êtes historien, enseignant à l'Université Toulouse Jean Jaurès et auteur du livre « Découvrir la révolution chilienne 1970-1973 », donc les années de pouvoir d'Allende. Franck Godichaud, vous avez écrit en plus du livre que je citais tout à l'heure, un article dans Le Monde diplomatique dans lequel vous dites qu'a priori, ça devrait être facile de choisir entre les deux spectres politiques chiliens, Allende et Pinochet, et en fait, pas tant que ça.
Non, pas tant que ça, parce qu'effectivement, on est face à une mémoire en bataille, une mémoire fracturée. Encore aujourd'hui, 50 ans après le coup d'État, il y a des secteurs de la société, du personnel politique qui continuent à se réclamer du coup d'État et de la dictature de Pinochet. Et c'est aussi le produit d'un contexte et d'une blessure historique qui n'a pas été refermée, dans un contexte aussi où la question de la justice, de l'impunité continue à peser sur la démocratie chilienne.
Et vous nous le disiez, l'extrême droite n'est jamais très loin, ni au moment de la dernière présidentielle, ni quand on sonde l'opinion. Notre correspondante nous le disait, mais est-ce que ces nostalgiques de la dictature sont plutôt, voire exclusivement des personnes âgées aujourd'hui, ou est-ce qu'en fait ce clivage se perpétue au sein des jeunes générations ?
Non, là oui, on l'a bien vu lors de la campagne, des dernières campagnes électorales. Il faut rappeler que le Chili, depuis 2019, le grand soulèvement populaire de 2019 est passé par plusieurs phases et plusieurs cycles électoraux. Et peu à peu, l'extrême droite a vraiment repris du poil de la bête, réclame une image d'ordre, essaie de mythifier un peu le passé de la dictature et a réussi donc à réactiver un fond conservateur, antiféministe par exemple, y compris au sein d'une partie des classes populaires et de la jeunesse. José Antonio Kast, le leader de l'extrême droite, désormais caracole en tête dans les sondages. Et donc, il y a une réactivation d'une mémoire de la dictature qui a été remise au goût du jour depuis les grandes mobilisations de 2019.
Depuis quelques années. Et cette extrême droite, elle s'impose au président Boric, puisque désormais elle est majoritaire au sein de l'Assemblée constituante, alors que l'idée même de cette Assemblée qui a été élue l'année dernière, c'était justement de se débarrasser de la Constitution qui était taillée sur mesure pour Augusto Pinochet.
Exactement. Là, on voit aussi les continuités. La Constitution de 1980 est toujours en vigueur avec des réformes au Chili actuel. Il y a eu un premier échec en 2022, d'un projet qui était, lui, progressiste, plurinational, démocratique et féministe. Et désormais, ce sont plutôt l'extrême droite et la droite conservatrice qui ont la main sur ce nouveau processus constituant. Donc, on se retrouve avec un paradoxe. Les admirateurs de la Constitution de Pinochet sont chargés de rédiger une nouvelle constitution, alors qu'on a un gouvernement de centre-gauche qui, lui, réclame des changements. Donc, on voit la polarisation de la société chilienne et les ambiguïtés de cette transition démocratique.
On le voit, le coup d'État et ses conséquences se font toujours sentir aujourd'hui, 50 ans plus tard. Alors, la rédaction Amérique latine de RFI a pu recueillir des récits de témoins de cette journée du 11 septembre 1973. Comme celui du musicien Carlos Quesada, très engagé à gauche. À l'époque, il avait déjà fui le Chili, on l'écoute.
Le journal L'Humanité nous a téléphoné. Ces journalistes nous ont ensuite informés à chaque fois qu'une nouvelle dépêche des agences de presse tombait. C'est ainsi que nous avons peu à peu compris que quelque chose de terrible était en train de se passer au Chili. Je n'ai pas été surpris par ce coup d'État. Quand nous avions quitté Santiago le 18 août, nous avions plaisanté avec nos amis et nos familles, c'était de l'humour noir bien sûr, en leur disant « Bon salut, nous partons, nous allons nous sauver parce que le coup d'État arrive ». Avec le recul, je me dis quelle blague stupide. En tout cas, à l'époque, il y avait déjà un contexte, un plan pour renverser le président. Après le coup d'État, nos amis français nous ont dit « Écoutez, chers camarades, ce qui se passe au Chili est terriblement violent. Vous ne pouvez pas retourner dans votre pays. Nous vous conseillons donc de vous rendre immédiatement à la préfecture pour demander l'asile politique. »
On entend très bien dans ce témoignage que le coup d'État n'est pas venu de nulle part, Franck Godichaud. En fait, ça faisait des mois déjà qu'à l'époque, Salvador Allende faisait face à des grèves, à des blocus même.
Oui, le gouvernement de l'Unité populaire a vraiment fait face à une opposition radicale qui peu à peu prend l'option d'une intervention militaire violente. Donc il y a quand même une montée en puissance de cette opposition une fois que le centre politique, la démocratie chrétienne, s'allie avec la droite plus conservatrice et sous pression, et grâce à l'action aussi des États-Unis, comme on le sait aujourd'hui, grâce aux archives déclassifiées.
Justement, on va en parler de l'influence des États-Unis, puisque le pays a soutenu ces grèves. Abla Jounaidi, la presse en parle aujourd'hui. Le journal en ligne Interferencia, par exemple, publie une très longue interview à ce sujet.
Oui, un échange entre Peter Kornbluh, qui a fouillé pendant des années ses archives du Conseil de sécurité nationale américain, et Mark Cooper, l'ancien traducteur du président Allende. Ce n'est pas un secret, Washington a soutenu la dictature de Pinochet et d'autres dictatures voisines pour être un rempart au communisme. Mais les deux hommes reviennent sur l'attitude de celui qui était à l'époque conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger. Assez de sermons sur les droits de l'homme, aurait dit le jeune conseiller en réponse au rapport alarmant qui lui remontait du Chili. Face au dictateur qui le reçoit en audience en 1976, Kissinger n'évoque pas les atrocités, pourtant très nombreuses. Ce sont les archives, donc déclassifiées par l'administration Obama puis Trump, qui l'attestent.
Et on y apprend notamment qu'à l'époque, les États-Unis ont fait pression pour que des crédits internationaux soient refusés au Chili, qu'ils ont fait pression aussi pour manipuler les cours du cuivre afin de déstabiliser l'économie. Franck Dichot, le journaliste Pierre Calfon a parlé de cette époque en disant que les États-Unis avaient joué un rôle de blocus invisible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression ?
Oui, tout à fait. Et là, en fait, c'est vraiment une vérité historiographique. Nous, maintenant qu'on a les archives, on voit le niveau d'influence et d'intervention directe, y compris des États-Unis, pour jouer un rôle de déstabilisation économique et en même temps pour financer la presse, les militaires les plus radicaux et réactionnaires, afin de préparer le coup d'État et de le soutenir, de le financer et d'avoir un appui matériel aux opposants à Allende.
Il inquiétait beaucoup les États-Unis et aujourd'hui, Salvador Allende est devenu un mythe pour certains au Chili. Notre correspondante Naila de Rouanet avait rencontré il y a 8 jours certains de ses admirateurs.
Le 4 septembre dernier, juste à côté du Palais de la Moneda, en plein centre de Santiago, un hommage était rendu à Salvador Allende, 53 ans, jour pour jour, après son élection à la tête du Chili.
J'avais 20 ans lorsque Salvador Allende a été élu président.
Carlos, 70 ans, est venu assister à l'hommage accompagné de son épouse.
Pour nous les pauvres, il incarne l'espoir qu'un jour puissent se réaliser les transformations sociales qu'il avait en tête pour nous, l'égalité et la démocratie. Une meilleure vie pour les gens.
J'étais allendiste dans ma jeunesse, raconte Selmira, et aujourd'hui encore, elle admire l'ancien président.
C'était un leader, un héros. Il portait des valeurs. Il a été démocrate jusqu'au bout. Il a offert sa vie au Chili. Et c'est tout cela que nous devons honorer.
Quelques semaines plus tôt, à l'exact même endroit, aux abords de la Moneda, un groupe d'extrême droite se rassemblait pour protester contre l'actuel président Gabriel Boric.
Salvador Allende était un tyran. Tout le monde dit qu'il faisait partie du peuple, mais si ça avait été le cas, il ne nous aurait pas laissé mourir de faim.
Carmen, 76 ans, un drapeau du Chili entre les mains, elle se souvient du début des années 70 lorsque Salvador Allende était au pouvoir.
J'avais 18 ans, j'étudiais le soir car la journée je devais travailler. J'arrivais chez moi vers 23h, je mangeais quelque chose et ensuite j'allais faire la queue pour essayer d'avoir de la nourriture.
Admiratrice du dictateur Pinochet, Carmen estime alors que le coup d'État était nécessaire en 1973.
Sinon nous serions devenus comme Cuba aujourd'hui. Le communisme promet beaucoup de choses mais ne fait rien.
Aujourd'hui, ceux qui dénoncent Salvador Allende, ce sont les partisans de Pinochet.
Marta Lagos est analyste politique.
Je pense que pour le reste de la classe politique, Salvador Allende est une figure du passé qui peut être critiquée ou admirée. Mais personne ne s'y oppose de façon active comme les partisans de Pinochet.
Et elle ajoute qu'aujourd'hui, un tiers des jeunes ne connaissent ni Augusto Pinochet ni Salvador Allende.
Voilà pour les plus jeunes, mais on a entendu par exemple hier le président mexicain à Santiago reprendre les mots même d'Allende pour dénoncer le coup d'État en parlant de trahison des généraux. Donc on mesure son influence dans toute la région. Il y a un autre point qui est très sensible aujourd'hui, c'est bien sûr la question de la justice. Abla Junaidi, la presse publie par exemple le témoignage de Moy de Tora, la veuve d'un ministre d'Allende.
Oui, c'est peut-être sa dernière interview. Elle a 87 ans, relate le journal The Clinic. Son époux, José Toa, est mort d'asphyxie le 15 mars 1974 à l'hôpital militaire de Santiago. Blessé, affaibli, il avait été emprisonné sur l'île Dawson quelques heures après le coup d'État. Pendant des années, la version officielle de la dictature prétendait qu'il s'était suicidé. Veuve à 36 ans, Moy et sa famille sont parvenus à déterminer les vraies causes de la mort. Son message aujourd'hui est adressé à la droite chilienne, qu'elle engage à rejeter ce moment terrible pour la démocratie. Cela aidera, selon elle, à pacifier les âmes blessées de ce pays.
Les années de dictature, elles ont fait 3000 morts et disparus, 40 000 personnes torturées. Mais Augusto Pinochet est mort à 91 ans sans jamais avoir été inquiété par la justice. Et sur les plus de 700 personnes militaires et civiles condamnées, eh bien pour l'instant, une centaine seulement a effectivement fait de la prison. Qu'est-ce qui bloquait jusque-là Franck Godichaud, si on estime qu'à partir de l'élection de Gabriel Boric, les choses ont commencé à changer?
Ce qui bloquait, c'est qu'on avait une sortie de la dictature qui s'est faite de manière négociée en fait, avec les militaires. Il faut rappeler que le dictateur Pinochet est resté chef des forces armées pendant 8 ans après la fin de la dictature. Il a gardé la main sur une partie de l'appareil judiciaire. Il y a eu peu d'enthousiasme de la part des nouvelles administration civile pour avancer véritablement dans la justice. Et c'est vraiment grâce à la mobilisation des familles de victimes qu'il y a eu des procès, des avancées, mais très lents. Et aujourd'hui, on est à 50 ans, donc il y a de nombreux responsables de la dictature qui sont aujourd'hui décédés. Donc on reste quand même dans une situation d'impunité très très large, même si le président Boric a annoncé un plan gouvernemental pour la recherche des détenus disparus. Ce qui a changé, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui veut en savoir plus et qui veut surtout terminer avec ces héritages autoritaires pour repenser la démocratie chilienne. Mais les enjeux sont très vastes et les oppositions également, on l'a dit, sont très importantes.